Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le premier pape jésuite de l'histoire a rendu hommage au cardinal jésuite italien Carlo Maria Martini, mort il y a un an. Grand intellectuel très médiatique, exégète de réputation mondiale, l'ancien archevêque de Milan était un homme pénétré par la parole de Dieu et voué à l'émergence d'un monde plus juste et humain. La Roumanie, elle, va rendre hommage samedi au père Vladimir Ghica, issu d'une grande famille princière, ami d'intellectuels français comme Claudel ou Maritain, orthodoxe converti au catholicisme. Il est mort en martyr du communisme après avoir longtemps vécu à Paris. Nous verrons également que les choses bougent au Vatican et nous parlerons de la collégialité dans le cadre de nos rediffusions estivales. Mais tout d'abord, la Syrie qui est au cœur des préoccupations du Saint-Siège et de l'Église catholique. La Fondation Aide à l'Église en détresse organise jusqu'au 6 septembre une semaine de prière pour la paix dans ce pays. L'AED avait prévu d'organiser ce moment de prière au mois d'octobre, le mois de la Vierge Marie et du Rosaire. Mais après les nouvelles et les décisions de ces derniers jours, elle estime que le temps presse. Antonino Gallofaro.
Dans les 17 pays où la Fondation est présente, on priera pour le peuple syrien et pour les chrétiens de Syrie qui en ont besoin. De son côté, le mouvement des Focolari invite la communauté internationale à utiliser ses instruments politiques et diplomatiques pour résoudre ce conflit. Des solutions négociées sont encore possibles, elles ont plus de chances de stabiliser les pays de la région. Le mouvement souhaite que les dirigeants occidentaux fassent preuve de la plus grande rigueur et agissent sous mandat de l'ONU, faute de quoi toute intervention serait illégitime. Une action qui ne viserait pas la réconciliation, la justice et la reconstruction des institutions serait contre-productive. Dans l'Église, des voix ne cessent de s'élever, non seulement pour appeler l'Occident à la prudence et à la retenue, mais aussi pour bien analyser la complexité de la crise syrienne et du contexte régional. Jeudi, le Vatican a réaffirmé que la voie du dialogue et de la négociation était l'unique option pour sortir la Syrie de la crise. Quant aux appels des responsables des églises locales, ils deviennent de plus en plus pressants, d'autant que la survie des chrétiens de la région est en jeu. Sur place, c'est l'angoisse et le désespoir. Dans une déclaration à l'agence vaticane Fides, un archevêque syro-orthodoxe, Mgr Mataroam, a averti qu'il était facile de lancer des frappes aériennes, mais qu'il était beaucoup plus difficile d'arrêter une guerre régionale. Partout en Syrie, a-t-il dit, les chrétiens prient pour conjurer toute attaque étrangère.
Il y a un an, des milliers de personnes s'étaient rassemblées à la cathédrale de Milan pour rendre un dernier hommage au cardinal jésuite italien Carlo Maria Martini, ancien archevêque de la ville, mort le 31 août 2012 à l'âge de 85 ans. À la veille de cet anniversaire, vendredi matin au Vatican, des jésuites italiens se sont retrouvés autour du pape François, lui-même jésuite. Accompagné du provincial d'Italie, il souhaitait lui présenter la toute nouvelle fondation Carlo Maria Martini. Celle-ci se propose de promouvoir la connaissance et l'étude de la vie et des œuvres du cardinal Martini et de faire vivre l'esprit qui a animé son engagement avec une attention particulière pour le dialogue avec les autres religions et la société civile. Une initiative saluée par le pape François comme un acte de justice. Maxime Bepser.
Le cardinal Martini a été un père pour l'Église, pour son diocèse et un prophète et un homme de paix. C'est en ces mots que le pape François a rendu un vibrant hommage à la personnalité de l'ancien archevêque de Milan devant les jésuites de la Fondation Martini. Une rencontre brève mais naturelle, selon le père Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège, lui-même jésuite. Le Saint-Père a évoqué son expérience personnelle à l'autre bout du monde et la contribution du cardinal Martini pour la connaissance de la Bible, mais aussi pour la spiritualité et la vie de la foi, nourrie par la parole de Dieu. Le pape a enfin souligné le grand rôle joué par cette figure des jésuites lors d'une congrégation générale en 1974, celui qui n'était encore que le père Martini a largement contribué à tenter de répondre à la question du lien entre foi et justice. Une œuvre que le pape François a vivement encouragée à continuer.
Figure de référence pour les catholiques réformistes, le cardinal Martini n'avait pas peur d'interpeller l'institution. Dans sa dernière interview, il avait averti l'Église qu'elle avait 200 ans de retard. « L'Église est fatiguée », affirmait-il, « nos églises sont grandes, nos maisons religieuses sont vides, nos rites et nos costumes sont pompeux. L'Église doit se réveiller, reconnaître ses erreurs et prendre la voie radicale du changement. » Un prêtre mort dans l'une des prisons les plus dures du régime communiste en Roumanie, Vladimir Ghica, sera béatifié ce samedi à Bucarest. Il avait été arrêté puis condamné pour être resté fidèle au Saint-Siège. Il mourut en 1954 après avoir enduré des mois de souffrance et de torture. Sa béatification se déroulera en présence d'une importante délégation de l'archidiocèse de Paris, emmenée par le cardinal André XXIII. Le pape François sera représenté par le cardinal Angelo Amato, préfet de la congrégation pour la cause des saints. Antonino Gallofaro a interrogé Mgr Philippe Brizard, directeur général émérite de l'œuvre d'Orient, grand admirateur de Vladimir Ghica.
Avant que je ne m'occupe de Ghica à la demande du cardinal XXIII, je ne connaissais rien de lui. Donc, j'ai fait une découverte d'un personnage qui est un confrère aîné, puisqu'il est du même diocèse que moi, et qui a su vivre étonnamment ces époques douloureuses, charnières, qu'ont été la fin de cette époque que tout le monde dit heureuse, jusqu'à la guerre de 14, l'entre-deux-guerres et la chape de plomb communiste pour son pays, la Roumanie.
Qu'est-ce qui vous a marqué chez lui ?
D'abord, c'est évidemment un homme de foi, mais il brille avant tout par son immense charité. Je crois que c'est la caractéristique, l'originalité du personnage, même si le mot paraît un peu banal, mais il avait une théologie de la charité très forte. Sa vie est en deux temps essentiels. Depuis sa conversion au catholicisme, il y a toute une partie de sa vie qui est comme laïque pendant plus de 20 ans, et puis ensuite l'autre partie comme prêtre qui se divise en deux parties, la moitié en France, l'autre moitié en Roumanie. Et le continuum, c'est justement cette place qu'il fait à l'autre, aux pauvres. Il a des mots extraordinaires pour parler de la liturgie du prochain, de la théologie du besoin. Et toute sa vie, il va voler là où un besoin se fait entendre, se fait sentir. Et il essaye d'y répondre sans faire des grandes choses. Mais là où il est, comme il est, avec les moyens qu'il a.
Vous dites qu'il est fidèle à la théologie du besoin, de la charité. Comment ça se traduit dans les mots, dans les faits ?
Il y a un personnage qui l'a beaucoup marqué. C'est sœur Marianne Pucci, qui est une fille de la charité, qu'il a rencontrée à Thessalonique, et avec qui il a développé ce qu'il portait en lui. D'une certaine manière, il a été le monsieur Vincent, Saint-Vincent de Paul, si vous préférez, du XXe siècle. Voilà ce qui, je crois, est remarquable en lui, une attention, une amabilité aux personnes. Pour lui, rencontrer une personne, c'était rencontrer le Seigneur qui est dans cette personne. À une époque où on est très sensible à l'action humanitaire, au caritatif, etc., eh bien là, lui, il a trouvé la substance, je dirais, apostolique de l'action pour les autres.
C'est cette rencontre avec Sœur Pucci qui fait qu'il passe d'une vie laïque à une vie religieuse ?
Ce n'est pas exactement une conversion. Il est dans la perspective de gens comme Soloviev, comme Dom Bauduin, premier abbé de Cheftogne, de ces gens qui ont eu l'intuition que l'Église est substantiellement une et qu'il n'y a qu'une seule foi, hein, et que l'Église est de soi catholique, non pas comme une catégorie d'Église, mais comme une note de l'Église, une caractéristique de l'Église. Donc il n'a pas eu l'impression de devenir catholique en abandonnant sa racine orthodoxe. Au contraire, il a l'impression qu'il déploie ce qui est né en lui et dans sa réflexion. En même temps, il cherche une église où l'on vive la charité. La charité de deux manières, là où on peut adorer le très saint sacrement, là où on peut être soutenu par des frères, là où on peut agir dans la charité. Donc, en se devenant catholique, il s'est en quelque sorte déjà consacré à la charité et il sera conforté dans cela par le pape Pie X, qui, reportant à plus tard son désir d'être prêtre, lui dit d'être laïque, missionnaire dans tous les milieux où il se trouve et font son action missionnaire et exprime son immense charité.
C'était Mgr Philippe Brizard, directeur général émérite de l'œuvre d'Orient. Le pape François travaille à la résidence Sainte-Marthe et les choses bougent ce vendredi. C'est une nomination importante qui a été officiellement annoncée, celle du nouveau secrétaire général du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican. Le pape François a choisi pour cette fonction un religieux espagnol âgé de 68 ans, le père Fernando Vergès Alzaga, qui était actuellement à la tête de la direction des télécommunications de l'État de la Cité du Vatican. Le père Vergès succédera à Mgr Giuseppe Sciacca, un éminent juriste sicilien, récemment transféré à la signature apostolique, le tribunal suprême du Saint-Siège. Mgr Sciacca avait lui-même succédé à la tête de cette importante institution vaticane à Mgr Vigano, nommé nonce apostolique aux États-Unis, après les polémiques suscitées par ses critiques acerbes contre la mauvaise gestion financière du gouvernorat. Le père Vergès est membre de la Congrégation des Légionnaires du Christ. Il a occupé plusieurs fonctions au sein de la Curie romaine. Passionné d'informatique, il est par ailleurs un vieil ami du pape Bergoglio. Il a été pendant plusieurs années secrétaire particulier du cardinal argentin Eduardo Francisco Pironio, décédé en 1998. Le cardinal Pironio, qui a joué un rôle important dans l'histoire de l'Église sous Jean-Paul II et qui jouit d'une réputation de sainteté. C'est au cardinal Pironio que l'on doit en partie le succès des Journées mondiales de la jeunesse. Le club des anciens élèves de Joseph Ratzinger va se réunir cette année encore à Castel Gandolfo. Ce traditionnel séminaire d'été se déroulera du 31 août au 3 septembre. Mais pour la première fois, sauf surprise de dernière minute, Benoît XVI, pape émérite, n'y participera pas. Cette 38e édition sera consacrée à la question de Dieu dans le contexte de la sécularisation, à la lumière de la pensée philosophique et théologique de Rémi Brague. Xavier Sartre.
Ces journées d'études ont commencé en 1977 en Allemagne lorsque le professeur de théologie Joseph Ratzinger venait d'être nommé archevêque de Munich et Freising. Elles se sont poursuivies à Rome quand le cardinal Ratzinger a été appelé par Jean-Paul II pour diriger la congrégation pour la doctrine de la foi, puis à Castel Gandolfo quand il a été élu pape. L'éventail des thèmes abordés au fil des ans est vaste. Dieu dans l'islam en 2005, rapport entre création et évolution en 2006, la mission dans la perspective écuménique en 2009. Cette fois, Benoît XVI restera dans sa résidence, un monastère au cœur des jardins du Vatican, et les travaux seront coordonnés par le père Stefan Otto Horn, qui a été l'assistant du professeur Ratzinger de 1971 à 1977 à Ratisbonne. Le philosophe et historien français Rémi Brague, membre de l'Académie catholique de France et de l'Institut de France, proposera un exposé sur la foi dans la société civile contemporaine qui servira de base à la réflexion. Une trentaine de théologiens, principalement germanophones, dont le cardinal Christoph Schönborn, archevêque de Vienne, devraient y participer. On ignore si le pape émérite participera à la messe conclusive du séminaire de ses anciens étudiants.
Le Sacré Collège est en deuil. L'archevêque émérite de Lusaka est mort à l'âge de 82 ans. Medardo Joseph Mazombwe aura été le premier cardinal zambien de l'histoire. Il avait consacré sa vie à l'Église, aux pauvres et à la diffusion de l'Évangile en Afrique. Un engagement salué par le pape François dans un télégramme de condoléances. Le pape François qui s'unit à la prière et au deuil des catholiques du diocèse de Lusaka. Je vous le disais tout à l'heure, le pape François prépare assidûment la rentrée. La presse italienne avance de nombreux pronostics. Un nouveau secrétaire d'État, une nouvelle encyclique, la réforme de la Curie. Une chose en tous les cas est sûre, le pontife argentin gouverne autrement. Et si les médias retiennent surtout son style simple et spontané, les plus avertis repèrent des tendances plus profondes. S'il travaille seul, le pape François tient beaucoup à la collégialité. Il a d'ailleurs nommé un groupe de 8 conseillers qui se réuniront autour de lui début octobre. Et c'est un gros plan sur la collégialité que je vous propose aujourd'hui de réécouter dans le cadre de nos rediffusions estivales. À l'automne dernier, lors d'une série consacrée au cinquantenaire du Concile Vatican II, nous avions interrogé à ce propos le père Bernard Ardura, président du Comité pontifical des sciences historiques. Vatican II est en effet le premier concile à s'être prononcé dans Lumen Gentium sur ce principe essentiel, expression visible de la catholicité de l'Église, avec à sa tête le pape, fondement perpétuel et visible de l'unité. Le père Ardura était interrogé par Manuela à Figi.
En créant les 12, le Christ a commencé une création nouvelle. C'est l'Église, c'est le nouveau peuple de Dieu. La racine même de la collégialité est une racine qui est d'ordre sacramentel. Et c'est ce qu'ont voulu souligner les évêques et qu'a voulu souligner le pape Paul VI. Cette collégialité n'entre pas en conflit avec le primat de Pierre. Cette collégialité doit être une articulation harmonieuse de l'ensemble des pasteurs de l'Église qui sont tous sous l'autorité de Pierre, mais qui partagent aussi la même mission. Puisque dans l'Évangile, nous voyons d'un côté le Christ qui confie à Pierre le soin de paître ses brebis, de lier et de délier, et de l'autre le Christ qui confie pratiquement les mêmes devoirs à l'ensemble des apôtres. C'est en ce sens que le Concile a reconnu qu'elle appartient à la nature même de la structure hiérarchique de l'Église.
Comment se manifeste cette volonté de collégialité? Qu'est-ce qu'on a fait en ce sens?
La première de ces réalisations, de toute façon, ça a été, de la part du pape Paul VI, l'institution du synode des évêques. Alors cette institution n'est pas une institution permanente, elle est seulement consultative, mais elle est riche de signification, puisque nous avons eu un développement particulier sous le pontificat de Jean-Paul II, de ces fameux synodes dits « extraordinaires » qui ont été voués soit à des questions particulières, soit à des portions de l'Église particulières. Nous avons eu aussi un nouveau développement du consistoire des cardinaux, qui ne sont plus seulement appelés pour des célébrations liturgiques, mais pour étudier des thèmes importants. Il faut aussi insister sur le fait que, au plan des églises locales, il y a eu la généralisation des conférences épiscopales. Ce n'est pas une invention du synode, parce qu'il y a de nombreux pays dans lesquels il existait déjà des conférences épiscopales qui ne portaient pas son nom. En France, il y avait l'ACA, l'Assemblée des cardinaux et archevêques, mais qui donc, depuis déjà des dizaines d'années, parfois depuis le début du XXe siècle, étaient des organismes qui permettaient aux évêques de développer, disons, des politiques communes. La nouveauté avec les conférences épiscopales, c'est que celles-ci, donc, avec des statuts approuvés par Rome, ont vraiment, dans un certain nombre de domaines, des pouvoirs qui sont des pouvoirs de collégialité.
Vous insistez bien sur le fait que la collégialité entre évêques ne porte pas atteinte au primat de Pierre. Ça veut dire que ce sujet a été sensible pendant le Concile?
Il a été sensible pendant le Concile et après, parce que la minorité du Concile craignait par-dessus tout que précisément l'on porte atteinte à la primauté de Pierre. Et c'est pour cela qu'il y a eu donc cette résistance de la minorité. Mais n'oublions pas que, dans le sens contraire, la même chose s'est passée au Concile Vatican I. Alors que tous les évêques étaient persuadés de la réalité de l'infaillibilité du pape, un bon nombre, parmi lesquels des Français, mais aussi des Autrichiens, étaient opposés pour une question de inopportunité de définir cette infaillibilité du pontife romain dans un certain nombre de domaines et de circonstances. Et il est bon de rappeler que pour qu'il n'y ait pas de non au vote de la Constitution sur l'infaillibilité pontificale, un bon nombre d'évêques, à peu près 80, dont un bon nombre de Français, s'étaient éloignés de Rome le jour même où il y a eu le vote de cette constitution. Donc, la question de l'équilibre entre la primauté de Pierre et puis la responsabilité commune de tous les évêques avec Pierre est un équilibre qui est chaque fois à reconstruire et à consolider et à développer.
L'entretien que vous venez d'entendre était une rediffusion. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, mais je vous invite également à nous retrouver sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français. Bonne fin de semaine à tous.